I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Écoute Marie sans filtre, bienvenue. Marie sans filtre est un podcast intime, féministe et politique. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Et aujourd'hui, je te raconte mes aventures dans le fabuleux monde de l'édition. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé à écrire. Je devais avoir 12 ans, je devais être en 6e. Ma mère m'a mis un journal entre mes mains et m'a dit « Bah, t'as qu'à écrire un journal intime ». Moi, quand j'avais ton âge, j'écrivais un journal intime. Alors j'ai pris le journal et j'ai commencé à écrire mon journal intime. Et depuis, genre, j'ai écrit des dizaines et des dizaines de journaux intimes et je les ai mis tous dans ma commode rose qui est dans ma chambre chez mes parents. Et je ne les ai jamais relus, mes journaux intimes, parce que vraiment, je pense que ça serait une expérience inconfortable. Mais je sais qu'un jour, j'en m'en servirai pour faire un truc, mais pour l'instant, c'est des journaux intimes. Et jusqu'ici, j'ai 26 ans, je continue à écrire des journaux intimes, genre tous les jours. J'écris un peu, enfin j'essaye, avec des périodes où je le fais pas. Et du coup, je me suis pas dit tout de suite que j'allais écrire des livres parce que pour moi, c'était hors de portée. Et je me suis toujours dit que j'avais pas d'imagination, genre que vraiment, moi, ce que j'écris, c'est la réalité. Donc, je peux pas écrire un livre, je peux pas écrire un roman puisque quand j'étais petite, je lisais que des romans. Je savais pas qu'on pouvait écrire des trucs sur des trucs vrais. Et je savais pas que les romans, des fois, ça inspirait de trucs vrais. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais devenir journaliste et comme ça, je pourrais écrire sur des choses vraies. Puis après, j'ai grandi, puis voilà, j'ai grandi, et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a ce qui s'appelle l'autofiction, on peut écrire des romans à partir d'expériences vécues, et puis on peut écrire aussi des essais, des trucs vrais, des témoignages. Et voilà, après, il a fallu quand même qu'il se passe des trucs dans ma vie pour que je me dise que tel sujet serait intéressant à écrire, et que je pourrais vraiment apporter quelque chose de nouveau qui n'a pas déjà été écrit avant. Et donc, j'ai décidé d'écrire un roman, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, mon premier roman qui s'appelle La Puissance. J'ai décidé de l'écrire en 2018, donc ça fait 3 ans. Si tu as écouté tous les épisodes en 2018, j'étais journaliste à l'agence France Presse à Paris, et donc cette année-là, j'ai été agressée sexuellement, enfin j'ai subi une tentative de viol. J'ai quitté mon mec, donc j'ai eu une rupture. J'ai fait une dépression. J'ai été harcelée dans la rue et j'ai été harcelée sexuellement au travail. Donc après, j'ai décidé de, sur un coup de tête, de partir faire le tour du globe en cargo. J'insiste, il faut écouter l'épisode 7 qui s'appelle « Je fais le tour du globe en cargo ». Et je me suis dit, sur le cargo, je vais écrire un roman qui va s'appeler « La puissance ». C'était très évident dès le début. Un roman féministe pour raconter en fait d'où vient mon féminisme, d'où est-ce que je viens et pourquoi j'en viens à devoir faire un tour du globe en cargo pour échapper à ma vie insupportable. Vraiment, ma vie était insupportable. Donc j'avais plein de privilèges et pourtant ma vie était insupportable. Et donc je suis partie faire le tour du globe, ça m'a coûté deux bras. Et sur le cargo, je n'avais pas internet, j'avais rien à faire, j'étais passagère, donc j'ai écrit un roman qui s'appelle La puissance. Enfin, j'ai écrit le premier jet, en fait, puisque je prenais des notes tous les jours sur ce qui se passait sur le cargo, sur ce qui s'était passé avant, sur ce que je voulais mettre dans le roman, sur voilà, ma construction féministe, ma déconstruction et mes traumas, en fait. Un peu mouliner tous ces traumas pour en faire quelque chose de puissant, quelque chose d'émancipateur, et pour se servir de ce prétexte du tour du globe en cargo où j'étais toute seule comme femme entourée de marins pour leur dire d'aller tous se faire foutre et pour devenir moi-même et devenir puissante et heureuse, blablabla. Bon, je te laisserai lire le roman pour savoir si ça se passe comme ça à la fin. Et du coup, l'action en fait du roman se passe vraiment sur le cargo, mais je fais plein d'ellipses pour raconter ce qui s'est fait avant, etc. Et je maintiens que c'est un roman, même si c'est tiré de la réalité, parce que tu peux reconnaître aucun personnage et parce que c'est écrit. Donc forcément, c'est ma réalité, c'est mes histoires. Et une personne une personne extérieure à moi, une personne qui a partagé ma vie à un moment donné, ne se reconnaîtrait pas ou reconnaîtrait pas l'histoire forcément dans le roman. Donc j'étais très contente d'écrire ce livre. Je me suis pas projetée plus loin. Et quand je suis revenue de mon tour du globe en cargo, j'avais genre trois carnets remplis de notes. Et c'était vraiment vraiment un premier jet. Enfin, c'était vraiment pas du tout organisé. Donc j'ai décidé en 2019, parce que j'ai fait le tour du globe en 2019, j'ai décidé ensuite de partir chez ma grand-mère paternelle à La Crouzette. Donc c'est un petit bled dans le Tarn, près de Castres. Et donc l'été 2019, les deux mois juillet-août, j'ai passé chez ma grand-mère à La Crouzette. Bon, ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer et elle n'était plus chez elle parce qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Du coup, elle vivait en maison de retraite, mais en attendant qu'on vende la maison ou qu'on loue la maison, mes cousins se sont installés dans une partie de la maison et moi, je me suis installée dans une autre partie de la maison pour écrire mon livre. Et du coup, j'ai passé l'été 2019 à La Crouzette. Si tu veux savoir le highlight de l'été 2019, je te conseille d'écouter l'épisode 23 qui s'appelle « Mon histoire d'amour finit mal » puisque j'ai passé l'été à écrire un roman, donc je peux te dire que au milieu, j'ai pété un câble tellement j'avais envie de baiser et de voir des gens. Du coup, je suis allée faire la fête dans un bled et à côté de La Crouzette et j'ai rencontré un mec et c'était à la fois magnifique et un enfer. Donc voilà, j'ai raconté cette expérience, cette histoire d'amour qui finit mal dans l'épisode 23 qui s'appelle « Mon histoire d'amour finit mal ». Voilà, donc si tu veux l'écouter, ça peut te faire un petit truc léger. Là, je reviens dans le roman, donc j'ai passé l'été à l'écrire, donc je me levais assez tard, moi je dors la nuit. Je dors 12 heures par nuit et donc j'écrivais genre 5 heures par jour, ce qui me semble énorme. Et donc j'écrivais sur mon ordi à partir des notes que j'avais prises et j'écris. En fait, au début, je me suis dit, bon, ok, je vais faire un truc chronologique. Je vais écrire en fait, dans l'ordre de ce qui s'est passé sur le cargo en mettant ces ellipses temporelles de mes traumas précédents et tout. Et après, quand j'ai fait cette première version, je me suis dit, non, mais c'est chiant, le truc chronologique, tu vois, c'est hyper classique. Enfin, c'est même pas une histoire que ce soit classique, c'était juste que ça correspondait pas à mon truc, à la puissance. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, je vais faire par thème, tu vois, je vais faire un truc un peu plus original. Donc, je vais faire genre partie 1, vraiment sur la dépression, la souffrance intérieure. Tu rentres dans le dur, et puis après, partie 2, sur les relations avec les hommes. Après, partie 3, sur mon rapport à mon corps, à la nourriture. Après, partie 4, sur la masturbation. Enfin, je te dis n'importe quoi, je te dis dans le désordre, mais voilà. Et à la fin, voilà, sur la puissance et tout. Donc, en fait, à chaque chapitre, en fait, dans chaque chapitre, il se passe les 4 mois du voyage en cargo. Et donc, à chaque début de chapitre, tu reviens, en fait, au premier cargo. Donc, c'était un petit peu compliqué à comprendre. Je crois pas que les éditeuries ont tout à fait compris à chaque fois. Mais je pense qu'on peut clarifier le truc au moment de l'édition pour que les gens comprennent. Mais en fait, peu importe, c'est pas la chronologie qui est importante, c'est bien sûr ce que j'écris et ce qui se passe dedans. Donc voilà, j'écris le roman à la Crouzette en faisant plein de versions pendant l'été jusqu'à cette version en chapitre. Et ensuite, je suis revenue à Paris et j'ai décidé de faire relire mon roman, cette version à deux personnes, à deux amis. Qui ont relu le fond en fait du livre en me disant bah écoute là on comprend pas de quoi tu veux parler, là je pense que tu te répètes déjà ce que t'as mis dans le chapitre précédent, là je pense que ça pourrait aller dans un autre chapitre, là je pense que ce chapitre tu peux le supprimer. Enfin voilà, elles ont relu le fond pour donner leur avis en fait sur le bouquin. Ensuite j'ai retravaillé donc ce d'après leur correction mon livre. Ensuite, j'ai fait encore relire à deux personnes, deux autres amies, qui elles ont relu la forme, donc les fautes d'orthographe, les répétitions, les fautes de syntaxe, voilà, les mots qui peuvent être remplacés par d'autres et tout, et synonymes. Donc après, j'ai retravaillé donc sur cette, je sais pas, sixième version, devait en être à la sixième version, pour à partir de leur correction aux deux. Et ensuite, donc en tout, il y a 4 personnes donc, qui l'ont relu. Et ensuite, je me suis retrouvée en avril-mai 2020. Vraiment une période exquise pour envoyer les romans aux maisons d'édition, hein, puisque le confinement et la crise du coronavirus étaient bien arrivés. Et donc, j'ai envoyé mon manuscrit, La Puissance, à 50 maisons d'édition. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, ce côté journaliste, tu vois, et étudiante, qui fait que j'ai mis des notes de bas de page. Mais en fait, mon truc, déjà, en entrée du livre, t'avais genre des descriptions des cargos, genre combien de mètres ils font, quel nom ils ont, enfin, pas quel nom ils ont, mais genre à quoi ils ressemblaient, genre une carte de mon voyage, genre un avant-propos pour me situer comme je me situe dans mes podcasts, genre je suis une femme, c'est genre blablabla. Ensuite, il y avait des notes de bas de page, genre tous les 3 mots, genre pour dire, dès que je citais un nom de roman, ou un nom d'émission, ou un nom de chanteuse, enfin en fait, dans le livre, je parle beaucoup de la culture, parce que c'est quelque chose qui nourrit ma vie et ma pensée, et à chaque fois que je citais, je sais pas, Les couilles sur la table, tu vois, je mettais en note de bas de page, Les couilles sur la table, un podcast de Victoire Toyon, produit par Binge Audio, sorti en 2018, 54 épisodes à ce jour, voici le lien pour l'écouter, mais genre, tout le temps. Sauf que quand tu lis un roman, il n'y a pas de note de bas de page. Enfin voilà, si la personne du roman, la narratrice, elle te parle d'un livre, tu t'en fous de savoir si ce livre existe vraiment, ou genre... par quelle maison d'édition il a été publié. Enfin, tu vois, c'est un truc annexe. Et du coup, bah, tout mon roman était pollué par des notes de bas de page, donc c'était pas du tout facile à lire. Et puis, il y avait l'écriture inclusive partout. Donc là, les maisons d'édition, elles sont genre... Enfin, voilà, choquées. Mais bref, enfin, j'essaye de me trouver des excuses, mais bref, j'ai envoyé à 50 maisons d'édition mon livre. Et il faut savoir que le manuscrit, certes, il y a des maisons d'édition qui prennent par mail le manuscrit, mais la moitié des maisons d'édition, elles prennent que par la poste. Donc il fallait que j'imprime 150 pages, que je relis le truc ou je l'agrafe, que je mette une couverture, que je la poste. Et qu'en plus, moi, je me suis dit, bah, ils peuvent me renvoyer le manuscrit s'ils ne l'aiment pas. Comme ça, je peux l'envoyer à d'autres maisons d'édition. Donc j'ai mis une enveloppe timbrée en plus dans l'enveloppe du manuscrit pour qu'ils me le renvoient au cas où. Donc j'ai pas payé seulement un affranchissement pour une maison d'édition, à chaque fois pour une maison d'édition il y avait 2 affranchissements pour l'aller et le retour du manuscrit. Donc c'est mon père qui a payé, très gentiment, car je ne pouvais pas payer genre 100 € ou 200 € de manuscrit, parce que c'est hyper cher d'envoyer des trucs comme ça à Lourdes par la poste. Donc je ne sais pas comment font les autres auteurices, et surtout que ça n'a servi à rien, parce qu'en fait je me suis pris que des refus. Et qu'en plus, le temps qu'il me renvoie mon manuscrit avec les enveloppes affranchies que j'avais mises, bah en fait, mon manuscrit avait été passé de la version 6 à la version 11. Donc, j'allais pas utiliser les manuscrits qu'ils m'ont renvoyés pour l'envoyer à d'autres maisons d'édition, sachant que je l'avais considérablement amélioré Mais bon, ça, je t'en parlerai après pourquoi je l'ai amélioré. Du coup, j'ai pas seulement contacté des maisons d'édition, j'ai aussi contacté des agents et des agentes littéraires. Donc, les agents et les agentes littéraires, je vais mettre au féminin parce que c'était surtout des meufs. C'est en fait des personnes, ça vient un peu des États-Unis, des agents de stars ou des agents d'acteurs, d'actrices et tout, de musiciens, musiciennes. En gros, c'est des personnes qui repèrent des talents, qui repèrent des livres ou qui accompagnent des personnes déjà repérées pour négocier les contrats. Donc, il y a plusieurs agences littéraires en France et plusieurs agents, agentes littéraires qui sont pas encore très connues. Et dans le féminisme, il y en a pas des masses. Et du coup, qui peuvent me permettre de toucher d'autres maisons d'édition, d'envoyer le manuscrit à la bonne personne dans la bonne maison d'édition, de pousser le manuscrit, qui ont des contacts privilégiés, qui après, surtout, peuvent négocier un meilleur contrat d'édition avec des meilleurs droits d'auteurice. Parce que c'est ça, j'en parlerai aussi après, qui pêche, bien entendu, c'est les droits d'auteurice. Donc j'ai contacté des agents littéraires, parce que moi je me suis dit, bah, ce sont des livres, je vais en écrire plusieurs, donc j'aimerais bien être accompagnée pendant toute ma carrière. Voilà, j'ai vu très grand, toujours aussi modeste. Et du coup, je me suis pris que des refus, pareil. Donc des agents littéraires qui me disaient « Non, je prends pas des primo-romanciers, romancières, donc des gens qui écrivent pour la première fois. Non, votre truc ne nous convient pas. » Et il y en a une qui m'avait dit que c'était intéressant et qui l'a fait relire à des potes à elle et elle a dit non. Mais elle m'a dit « Mais continue à chercher, je pense que ça peut plaire à quelqu'un. » Ok, merci. Et ensuite, j'ai pensé à l'auto-édition. Je me suis dit, là, je tente les maisons d'édition, mais je sais très bien que c'est difficile. Donc, je vais sans doute l'auto-éditer, que ce soit sur LibriNova, où il y a plein de plateformes, où tu payes genre rien, ou une. Enfin, je pense que c'est un peu payant. Je devrais payer genre un forfait pour la mise en page ou la distribution ou quoi. Mais en fait, c'est juste un PDF ou un e-pub, genre un livre numérique qui est en ligne et qui permet aux gens qui le souhaitent de l'acheter. Et comme ça, je récupère la plupart des droits d'auteurice, quoi. C'est vraiment plus avantageux. Et surtout, j'ai personne qui passe après moi. En fait, c'est ma version du livre qui est publiée. Mais l'auto-édition, ça correspond plutôt à des personnes qui ont une audience énorme ou qui ont beaucoup d'expérience parce que éditer un livre, le mettre en page, faire une couverture, faire la promo, c'est plusieurs boulots, en fait. Moi, je peux pas. Enfin, si je fais ça, ça va être forcément assez médiocre. Et je vais en vendre genre 100 et encore grand maximum, je vais en vendre 50. Et voilà. Donc, je me suis dit, l'auto-édition, tu vois, c'est un peu la dernière solution. Donc, je me suis dit, en décembre 2020, enfin, à Noël 2020, si j'ai pas de proposition d'éditorice, je passerai à l'auto-édition. Et voilà. Sauf qu'entre-temps, j'ai fait le Survivor Tour, donc le Tour de France à pied contre les violences sexistes. Le Survivor Tour, c'est un projet sur plusieurs années, donc j'ai lancé le 1er juillet 2020 et j'ai marché 3 mois. Donc pareil, tu peux écouter les épisodes 17, 18, 19, 20 et même le 16. Ouais, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes qui parlent du Survivor Tour dans ce podcast. Donc t'en as peut-être déjà écouter certains, et si ce n'est pas le fait et que ça t'intéresse, tu peux les écouter. Mais sache que je vais reprendre mon Survivor Tour l'été prochain, donc de toute façon, ça va être un Tour de France à pied sur plusieurs années. Du coup, j'ai fait ça, et le fait que ce soit un Tour de France à pied, que je sois seule, femme, que je dorme dans la forêt, que j'en fasse une arme politique pour dire j'en ai marre de me faire d'être harcelée par des mecs dans la forêt, j'en ai marre de qu'on me dise que c'est dangereux et tout. Voilà, j'ai aussi dénoncé plus largement toutes les violences sexistes et sexuelles à cette occasion en France et tout. Et du coup, il y a eu un énorme écho médiatique. Ça intéressait les médias à ce moment-là parce que je pense qu'il n'y a pas trop d'actualité et c'est intéressant. Je vais arrêter de me rabaisser. Et du coup, j'ai fait pas mal de passages dans la presse. Du coup, j'ai été repérée à cette occasion-là par une agente littéraire que je n'avais pas connue avant, qui ne me connaissait pas et qui m'a envoyé un message genre en octobre je crois, pour me demander si j'avais déjà écrit quelque chose, enfin plutôt si je pensais écrire des choses parce qu'elle avait vu mes blogs et elle trouvait que j'écrivais bien nanana et que j'avais des choses à dire. Du coup, elle m'a demandé si j'écrivais des livres ou si ça m'intéressait d'en écrire. Et donc là, je lui dis, ah, bah, vous tombez bien. En fait, là, j'ai déjà écrit un livre et je n'arrive pas à trouver de maison d'édition. Du coup, elle m'a dit, ah, ben, bah, envoyez-moi le livre, c'est vraiment parfait. Et du coup, j'ai envoyé le livre. Et elle a adoré le livre. Elle est tombée amoureuse du livre et du roman et de moi, de ce que j'écris. Du coup, elle m'a dit, non, mais c'est parfait, on va trouver une maison d'édition. Par contre, je sais pourquoi vous n'aviez pas trouvé de maison d'édition avant. C'est votre histoire de mise en page, de notes de bas de page, d'écriture inclusive. Tu vois, elle m'a un peu ouvert les yeux sur la forme qui peut dérouter pas mal de maisons d'édition. Du coup, on a enlevé tout ça, tous les trucs superficiels. On a un peu caché l'écriture inclusive, genre... On n'a pas supprimé l'écriture inclusive, mais genre, on a remplacé par d'autres mots ou on a repoussé l'écriture inclusive plus loin dans le livre. Du coup, c'est toujours écrit en écriture inclusive, mais il n'y a pas des mots d'écriture inclusive en écriture inclusive tous les trois lignes. Du coup, ça choque, à mon avis, moins les éditeuristes, bien que mon agent dit que ça continue à les choquer. Mais bon, moi, je ne vais pas supprimer l'écriture inclusive juste pour leurs beaux yeux. Sachant que je pense que c'est l'avenir, voire le passé et le présent. Et donc, elle a commencé à chercher une maison d'édition pour moi. Elle a contacté des maisons d'édition, certaines que j'avais déjà contactées, mais elle s'est adressée à la bonne personne qui est susceptible d'aimer ce genre de livre, qui est vraiment, je le répète, féministe. Enfin, j'ai pas encore dit, mais qui est vraiment féministe radical, où je parle vraiment beaucoup de sexe, avec des termes très crus, où je passe beaucoup de temps à ressasser les mêmes choses. Et ça fait partie du processus, quoi. Et qui est très égocentré, vraiment très, très égocentré. Mais bon, en même temps, je pense qu'il y a plein de romans qui sont centrés sur le narrateur ou la narratrice. Je vois pas le problème. Et du coup, elle a commencé à contacter des maisons d'édition. Et il y a une maison d'édition, notamment, une éditrice dans une maison d'édition qui a adoré. Et par contre, il fallait faire lire mon livre à sa supérieure hiérarchique, c'est-à-dire à la chef de la maison d'édition, à la patronne. Parce que dans cette maison d'édition, il faut avoir l'aval de la chef. Donc la chef doit lire le livre et dire oui ou non. Et donc là, on attend sa réponse depuis un mois et demi, donc je pense que c'est mort. Mais j'ai eu des gros, gros espoirs à ce moment-là. Et puis sinon, les autres, ils nous ont jetés parce que ça ne leur plaisait pas.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du coup, voilà, le principe de l'agente littéraire, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'elle prend un pourcentage sur les droits d'auteurice. Si je suis publiée, mais là, le travail qu'on a fait ensemble de correction et d'amélioration du texte, et le travail qu'elle fait de son côté pour écrire en maison d'édition, parce que moi, je fais rien, et pour les relancer, les appeler, les relancer, ce qu'elle fait en ce moment, elle n'est pas payée, en fait. C'est si je suis publiée qu'elle va toucher quelque chose. Donc, c'est vraiment un pari, et elle fait ça avec plein d'auteuristes, elle fait pas que ça avec moi, bien sûr. Et voilà, et du coup là, moi je suis un peu saoulée parce qu'elle m'avait donné beaucoup d'espoir, et elle avait beaucoup d'espoir. Et du coup, bon, après il y a aussi la période économique, je pense que ça ne facilite pas parce que toutes les sorties de bouquins ont été retardées et tout. Et donc il n'y a rien qui se concrétise, et elle m'a dit qu'elle m'a demandé de lui laisser jusqu'au 15 février parce que je lui dis, mais non, mais du coup on fait quoi si ça marche pas, on se donne jusqu'à quelle date et tout, et elle m'a dit non mais laisse-moi jusqu'au 15 février. Donc jusqu'au 15 février, voilà, elle fait ses recherches, et moi après on verra quoi, si on essaye d'autres trucs ou si je l'auto-édite, ça se passera plutôt comme ça. Mais moi j'ai en fait La puissance, je trouve que c'est un livre important. Je trouve qu'il y a des choses qui sont écrites que j'ai écrites dedans que j'ai jamais trouvées ailleurs dans aucun autre livre. Donc je pense que c'est important qu'il existe, le livre, pour que, en plus j'en parle depuis tellement longtemps aux gens qui me suivent, donc c'est important pour moi qu'il existe quelque part, qu'on puisse l'acheter, qu'on puisse le lire. Mais voilà, je sais très bien que ce sera pas un carton et que ça va pas me faire de moi une écrivaine célèbre, et je m'en fiche, je veux juste qu'il existe quelque part, et du coup j'ai envie de passer au suivant. Enfin voilà, j'ai plein de projets de livres, et ça c'est juste un prétexte, tu vois, c'est genre juste le début, genre c'est mon livre un petit peu perso, genre vraiment qui m'a aidé à me construire, quoi, en tant qu'adulte. Donc voilà, je pense aussi que la crise actuelle a ralenti ce processus. Mais bon, dans tous les cas, en général, les personnes qui arrivent à faire publier leurs livres, elles en ont déjà écrit 4 ou 5 avant, en fait. Hein, les premiers romans sont en réalité les 4e ou 5e livres écrits par leur autrice. Donc, c'est hyper rare de, du premier coup, faire publier son roman quand on n'est pas connu, quand on n'est personne, quand on n'a pas de réseau. Enfin, je veux dire, c'est... faudrait vraiment écrire un truc... Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est qu'il faut écrire un truc nouveau, original, parce qu'il faut que la maison d'édition ait envie de publier ce truc qui n'existe pas avant. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop radical, trop fou, parce qu'ils veulent quand même que ça se vende, quoi. Ils ne veulent pas faire des paris trop risqués. Donc, c'est hyper difficile de tomber sur la bonne éditrice, je vais y arriver, et de faire son trou. Enfin, je trouve ça hyper dur. Et du coup, quand j'étais sur le cargo, j'ai écouté beaucoup de podcasts, et j'ai écouté un épisode de podcast qui s'appelle « Écrire condamne-t-il à la pauvreté ?». C'est du podcast Splash, qui explore les questions économiques chez Nouvelles Écoutes. Donc, je te mettrai la référence de l'épisode « Écrire condamne-t-il à la pauvreté ?» dans la description de cet épisode, si tu veux l'écouter, parce que c'est vraiment très intéressant et ça ouvre les yeux. Mais je te résume un peu ce que j'ai retenu, et j'ai même mis ça dans mon roman pour que les gens qui lisent le roman se disent « Ah oui !» Alors, les femmes autrices sont payées 50% de moins que les hommes auteurs. En moyenne, si tu publies un livre et que tu es une femme, tu vas être payée 50% de moins que les hommes. Donc ça veut dire que tes droits d'autrice vont être moins bons en général, et surtout que tu vas vendre moins d'exemplaires. Les femmes autrices reçoivent 50% de réponses positives de la part d'un ou d'une éditrice de moins que les hommes. Donc c'est-à-dire que si je prends un nom féminin que j'envoie mon manuscrit, j'ai 50% de réponses positives en moins par rapport à un mec. Donc moi, ce que j'avais pensé à faire, c'est d'envoyer mon manuscrit avec un nom de mec. Mais bon, c'est pas ultra féministe comme posture, parce que j'ai pas envie de me faire passer pour un mec, tu vois, genre c'est genre la honte pour moi. Donc, mais voilà, je vais finir par faire ça, en fait, parce que je suis sûre que si j'avais envoyé mon manuscrit avec un nom de mec, tu aurais peut-être des éditeuristes qui m'auraient dit « Ah, mais c'est fou, vous arrivez à vous mettre dans la peau d'une femme, on croirait vraiment que le personnage est réel, c'est vraiment hyper ambitieux, novateur, blablabla. » Alors que là, vu que je suis une femme qui écrit le bouquin, les gens se disent juste « Ah non, mais c'est juste une meuf qui délire, une féminazie qui délire sur sa vie de bourge, sur son cargo, tu vois. » Donc voilà, je pense que c'est pas, notre travail est pas autant pris au sérieux, en fait, que les mecs. Après, j'ai aussi appris que seuls 2% des autrices vivent de leurs plumes. Donc 2% des gens qui écrivent des livres peuvent vivre que de ça, toucher un salaire décent. Donc 2%, ça, voilà. Et les droits d'auteur et droits d'autrice plafonnent à 15% du prix de vente du livre. Donc en fait, si un livre se vend à 20 €, je vais toucher, mettons, 10%. Ça va jusqu'à 15%, mais ça, c'est pour les gens qui ont bien négocié, qui sont déjà hyper célèbres. Donc, on va dire 10%, c'est déjà très bien. Ça va faire 2 € sur les 20 € du livre. Mais en général, c'est moins que 10%. C'est genre 5, 8%. Donc, il faudrait vendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemplaires pour gagner un salaire, ne serait-ce que sur 1 ou 2 mois, quoi. Enfin... gagner, je sais pas, 2 000 € sur 1 ou 2 mois, bah, il faudrait vendre 4 000 exemplaires. Je sais pas, je suis nulle en maths. Et pour finir, et pour remettre les pendules à l'heure, toujours, la moyenne des ventes d'un livre est de 350 exemplaires en France. Donc voilà, vendre son livre à 4 000 exemplaires, c'est extrêmement rare ici, c'est extrêmement rare. Et la plupart des livres, enfin la moyenne, c'est 350 exemplaires. C'est-à-dire que c'est pas la plupart des livres se vendent à 350 exemplaires, c'est que Enfin voilà, c'est une moyenne. Donc il y en a qui en vendent beaucoup moins, il y en a qui en vendent beaucoup plus. Voilà, là sur ce, je te redirige vers mon épisode Je suis une pauvre riche que j'ai publié le 11 décembre et qui a fait énormément d'écoute parce que finalement ça intéresse les gens de savoir comment je gagne ma vie et ça veut dire quoi être riche, ça veut dire quoi être pauvre, en tout cas pour moi. Pour pouvoir se comparer sans doute. Et du coup, cet épisode-là, j'explique quelles sont mes ressources. Et pour rappel, mes allocations chômage s'interrompent dans quelques semaines et je vais me retrouver au RSA ensuite. Mais j'ai une famille très riche et j'ai beaucoup d'économies. Donc voilà, il faut écouter l'épisode « Je suis une pauvre riche » pour savoir les détails de ma situation. Mais clairement, je suis au courant que mon livre ne me fera pas gagner d'argent quand même j'arrive à le publier, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. Que même mon deuxième ou mon troisième livre ne me fera pas gagner d'argent non plus. Donc je suis très... lucide. Je suis très lucide. Mais les gens qui écrivent des livres, généralement, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que c'est une passion. Et donc on estime en France qu'un métier passion n'a pas besoin d'être rémunéré. Je suis également... journaliste pigiste et les médias considèrent qu'il n'y a pas besoin de rémunérer correctement les journalistes pigistes puisque de toute façon c'est des gens qui sont libres, qui font des sujets passionnants et qui sont très heureux le matin de pouvoir travailler à l'heure qu'ils veulent, à l'heure qu'ils et elles veulent et sur des sujets personnels. Alors que quand t'es pigiste, voilà, on gagne 3 francs 6 sous et qu'à un moment donné il faut payer un loyer quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis au point de me dire que je ne vais pas être publiée par une maison d'édition. Je suis plutôt d'un naturel pessimiste, mais je trouve que c'est réaliste et que je vais sûrement être moto-éditée. Donc je vais j'essaierai de le faire avant l'été, mais ça va être compliqué parce que c'est du boulot, je pense. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment finir La Puissance, qu'il existe quelque part. En plus, quand je le lis, je peux plus trop l'améliorer, je peux plus trop travailler dessus parce que j'ai changé depuis et j'arrive plus à me projeter comment j'étais, dans quel état d'esprit quand je l'ai écrit. Du coup, je suis une autre personne. C'était il y a quand même 2 ans. Et maintenant, je veux travailler sur mon prochain roman, qui est un roman sur ma grand-mère maternelle, en tout cas sur sa vie de femme soumise, dans la souffrance, voilà, dont tout le monde se moque en fait, et qui a en fait pu se libérer hyper tard, genre à 60 ans, et encore, elle continue à être la boniche de tout le monde. Et j'aimerais vraiment insister sur les viols conjugaux, sur le classisme, le sexisme, le fait qu'elle s'est construite dans la boue au sens propre. Bref, ma grand-mère paysanne. Du coup, j'aimerais bien écrire un roman, après, avec tous les protagonistes de ma famille qui sont hyper nombreux. Mais bon, je pense que je le ferai dans très longtemps, ce livre, parce que ça va faire des remous. Ensuite, j'aimerais écrire un autre livre, cette fois un essai sur la sexualité moderne et féministe. Et j'aimerais bien l'écrire, le co-écrire avec ma meilleure amie, parce que je pense qu'on a des choses à dire sur nos rêves de sexualité révolutionnaire et épanouie. Il y a plein de livres qui sortent sur ça en ce moment, donc je sais pas ce qu'on pourra apporter de plus, mais c'est à réfléchir. J'aimerais bien aussi écrire un livre enquête sur l'industrie nucléaire, tirer des révélations de ma mère, puisqu'elle travaille dans le nucléaire et elle a découvert des graves manquements et des mensonges d'État et il se passe des choses de dingue en fait dans le nucléaire que tout le monde s'échine à terre. Et donc j'aimerais bien écrire un truc avec elle sur ça. Et j'aimerais bien aussi écrire un polar sur la vengeance d'une femme violée qui tue son mec violeur et qui se retrouve en tôle, en prison, et qui fait la révolution féministe et lesbienne en prison. Bon, après, c'est hyper classique, hein, La vengeance de la femme violée, mais j'adore. Avec vraiment des détails hyper sordides. Enfin, pas du viol, mais je veux dire de comment elle tue le mec. Et elle le torture, tu sais, genre hyper cathartique. Et puis, j'aimerais aussi écrire un essai sociologique sur la culture de viol et l'idée qu'il faut coucher pour réussir. On en parle à la fois tellement souvent et à la fois, on a l'impression que ça n'existe plus. Genre, on entend rarement la phrase « elle a couché pour réussir », mais pourtant, il suffit de tendre l'oreille pour la percevoir de temps en temps, cette phrase. Et j'ai vraiment envie d'explorer en fait les représentations d'un côté du travail du sexe, de se dire « je vais faire du sexe pour obtenir un avantage physique ou financier ». Et de l'autre côté, le viol patronal, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le fait d'être violé par son patron et d'être vu comme la salope ou la pute du service ou du patron, et tout le monde croit qu'on a obtenu une promotion grâce à cette relation, alors qu'en fait c'était un viol. Voilà, ça m'intéresse en fait de décrire sur la culture du viol, que je trouve tellement ancrée qu'il faudrait... Enfin, il n'y a pas énormément de livres dessus, et je pense qu'il en faut d'autres. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu veux écrire ? Est-ce que tu as déjà écrit un ou plusieurs livres ? Je suis sûre que oui, pour certains et certaines d'entre vous. Parce que plus j'écris, plus je me rends compte qu'il y a des tas de gens qui écrivent autour de moi. Et quelle est ton expérience avec les maisons d'édition, si elles existent ? Est-ce que tu penses qu'écrire condamne à la pauvreté ? Voilà, je t'invite vraiment à m'écrire pour qu'on partage ça et qu'on monte un collectif d'écrivaines pauvres et d'écrivains pauvres. Pas pauvres, du coup, mais en lutte. Mais je pense que ça existe déjà, mais... Enfin, je sais que ça existe, mais voilà, j'aimerais bien connaître ton expérience et ta vision, donc tu peux m'écrire. C'est vraiment... important, je pense, de partager nos expériences, sans blague. Et voilà, si tu veux soutenir Marie sans filtre, mets-lui 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Je sais que tu ne l'as pas encore fait, donc je redemanderai jusqu'à ce que tu le fasses. Et si tu le fais, tu peux m'envoyer un message en me disant « Je te dis, j'ai laissé 5 étoiles et j'ai mis un commentaire, donc maintenant arrête de me saouler. » Et puis, tu peux partager cet épisode ou tes épisodes préférés avec tes proches. Ça, je sais que vous le faites. Et n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Ce serait cool. Et mon pseudo, voilà, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast et mon autre podcast Sologamy, d'ailleurs. J'ai mis le lien de la cagnotte dans la description de cet épisode, comme toujours. Je viens de lancer ma newsletter. Ah. Ma newsletter qui s'appelle Le personnel et politique. Waouh, quelle originalité. Et c'est une newsletter à 1 euro par mois. Et oui, ça marche. Il suffit de t'inscrire sur mon Tipeee pour la recevoir. Du coup, ça donne un avantage. Tu vois, avant, tu donnais à ma cagnotte, mais tu n'avais aucun avantage. Ben maintenant, tu vas recevoir une newsletter régulière ou irrégulière, et j'y raconte pas du tout les mêmes histoires que dans mon podcast. C'est une lettre intime et politique sur mon quotidien d'aventurière, journaliste et autrice féministe. 16 personnes ont déjà reçu le premier numéro, donc je compte sur toi pour t'inscrire, ce qui te permettra de lire mes aventures et de soutenir le podcast et tous mes autres projets. Sans toi, le podcast Marie sans filtre n'existe pas.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.